Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond comme par hasard au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah je sais, verre kaki.
Calmez-vous! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous, non, trouvez ça normal?
C'est du verre bouteille.
Allez-vous cultiver scientifiquement?
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retraite, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie, je suis journaliste indépendante en Bretagne et c'est un nouveau rendez-vous que je lance aujourd'hui. Une fois par mois sur Canal B et en podcast, je vous parle d'écologie pendant une heure, un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus, médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, eh bien, on continue à en parler dans les médias indépendants et à l'antenne des radios associatives. Actualités, interviews, reportages, mais aussi ressources, agendas et musique, c'est le programme de Vers des Terres. C'est parti. Pour avoir l'air sérieux, on commence avec l'info du jour, repérée pour vous dans l'actualité plutôt vervessie, s'il fallait choisir une nuance, et celle-ci existe vraiment. Un nouveau gouvernement a donc été nommé dimanche 12 octobre dans la soirée, et c'est Monique Barbu qui récupère le ministère de la Transition écologique. Son profil peut avoir le mérite de rassurer certains en tout cas, à un mois de la COP30, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, rassurant car c'est l'ancienne présidente du WWF France, l'une des plus grosses ONG environnementalistes de la planète, qui a été créée au début des années 60. Vous savez, c'est celle avec le panda érigé en symbole de lutte. Pourtant, la structure, elle est visée depuis longtemps par des critiques, et pas des moindres, liens opaques avec des multinationales, financement de factions paramilitaires violentes en Asie et en Afrique, ou plus récemment, soutien à la chasse et au commerce d'ours polaires. Ça peut permettre de, peut-être, réenvisager son soutien à de telles ONG. Et terminons en ajoutant que ce n'est pas la première fois qu'un ancien du WWF France rejoint l'arène politique, puisqu'il y avait eu Pascal Canfin, qui est aujourd'hui eurodéputé au sein de la coalition présidentielle et qui, pour boucler la boucle, a voté avec d'autres cette semaine en commission des affaires juridiques l'allègement d'une directive dite de vigilance. Ce dispositif aurait dû obliger les entreprises à respecter les droits humains et environnementaux, y compris chez leurs fournisseurs et sous-traitants, mais a priori ce sera donc pour une autre fois. Tout ça pour dire que le WWF comme gage d'engagement politique, pas sûr que ça suffise. Vous écoutez Vers des Terres sur Canal B ou en podcast, et c'est le moment de l'entretien long format et on a un invité de marque pour inaugurer ce rendez-vous. C'est le président du groupe de travail numéro 1 du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Robert Votard.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes climatologue, météorologue de formation, directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Et depuis l'été 2023, vous co-présidez le groupe de travail numéro 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce groupe de travail, il est dédié à la connaissance des bases physiques du changement climatique. Pour commencer, il est sans doute utile d'expliquer comment travaille ce GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental, qui a été créé dans les années 80 par les Nations Unies. On l'a dit, vous présidez l'un des trois groupes de travail qui, ensemble, rédigent un rapport de synthèse qui est peut-être assez identifié par le grand public. Le dernier, c'était le sixième, il a été publié entre 2021 et 2023. Mais à part au moment de la publication de ces rapports, il peut peut-être être difficile pour certains auditeurs d'imaginer votre travail au long cours.
Oui, absolument. C'est un travail qui est extrêmement long pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a des processus très précis d'appel à auteurs, de nomination des auteurs, de validation des sujets avec les gouvernements. Tout ça prend beaucoup de temps. Et la deuxième raison, c'est que le mandat que nous, on va avoir avec nos auteurs, c'est de faire le point sur l'ensemble des connaissances sur le sujet du changement climatique. Alors, en ce qui me concerne et ce qui concerne le groupe 1 sur la partie physique, mais pour les autres groupes de travail, ça sera l'adaptation, les impacts, les aspects biologiques, sociologiques, et puis pour le groupe 3, les aspects économiques et technologiques également, pour les solutions pour réduire le changement climatique, en tous les cas l'atténuer. Alors, ce travail de revue et de synthèse des connaissances, ça prend énormément de temps parce qu'il y a des dizaines de milliers de publications qui paraissent à chaque cycle. Donc il faut que les auteurs puissent avoir le temps de les consulter et d'en faire cette synthèse pour que cette synthèse soit absolument exhaustive et reflète l'ensemble des connaissances et non pas une étude ou deux études ou trois études.
Et ce sont, la particularité, c'est que ce sont des chercheurs du monde entier qui travaillent ensemble. Comment est-ce qu'on travaille ensemble à distance ?
Alors absolument, une des autres particularités du GIEC, c'est de la nécessité d'avoir une représentation géographique des auteurs de chaque continent, parce que un rapport est, et il y en a beaucoup des rapports comme ça, si un rapport est fait seulement par exemple par quelques pays du Nord, eh bien, il ne sera pas accepté par les pays du Sud, et c'est bien compréhensible. Donc, il faut vraiment que ce soit un rapport qui soit vraiment partagé dans sa conception et dans sa rédaction par l'ensemble des membres, en tous les cas du GIEC, des 195 membres. Alors, comment on travaille ? La plupart du temps, on travaille à distance, mais on a aussi des réunions d'auteurs. Pour chacun des rapports, il y a 4 réunions principales d'auteurs. Donc qui sont espacés tous les 6 mois à peu près, où on doit se retrouver, puis on se retrouve à un endroit qui est hébergé par un des pays de membres et qui doit être distribué lui aussi dans le monde. Donc on peut pas tout faire en Europe ou tout faire en Australie. Donc ça, c'est la façon pratique de travailler, mais ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, c'est l'inclusivité de tous les auteurs. Par exemple, le fait de prendre la parole en public ou même dans un groupe ou dans une équipe, si pour des Européennes ou des Européens ça paraît naturel et sans difficulté, eh bien dans certaines cultures ce n'est pas le cas. On ne prend pas la parole comme ça. On attend qu'on vous donne la parole. Donc c'est toute la difficulté, c'est de bien comprendre les différences interculturelles pour que chacune et chacun dans l'équipe qui va travailler sur, par exemple, un chapitre, puisse avoir sa contribution et sa voix.
Alors, aujourd'hui, donc, il y a ce 6e rapport qui a été publié, dont la publication s'est terminée en 2023. Et aujourd'hui, c'est un 7e cycle qui a commencé avec, si tout va bien, de prochaines publications prévues pour 2028 ou 2029. Je crois que c'est l'échéance prévue.
C'est l'échéance prévue, elle n'a pas été encore complètement décidée, mais nous on prévoit pour le groupe 1, donc la physique, d'avoir une approbation, donc je vais peut-être un peu détailler ce que c'est, d'avoir une approbation en mi-2028. Alors une approbation, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on fait pas juste un rapport, puis hop, on l'envoie, on le publie, on le dissémine. Non, ce rapport, et particulièrement le résumé pour décideurs de ce rapport, doit être approuvé par les représentants des 195 pays à l'unanimité. Et c'est ce qui fait la force du GIEC, en fait. C'est que le texte qui en ressort, il ne peut pas être contesté dans une arène politique, puisque les mêmes gouvernements de tous les pays l'ont accepté. Ça nécessite une séance, notamment en plénière, qui prend une semaine, et qui est l'approbation du résumé pour décideurs. C'est une vingtaine de pages.
Et donc, si le calendrier n'a pour le moment pas encore été complètement approuvé, c'est qu'il y a encore des approbations de certains pays qui, je crois, sont attendues. Je me demandais dans quel état d'esprit pouvait se trouver un chercheur comme vous aujourd'hui dans le climat politique mondial qu'on connaît. Je pense évidemment aux dernières sorties du président américain Donald Trump sur le réchauffement climatique. Je cite « plus grande escroquerie jamais perpétrée sur le monde. De son discours qui s'accompagne, et là c'est assez dramatique, d'un désengagement financier de la recherche sur le climat. Je pense aussi chez nous à l'instabilité politique qui a petit à petit effacé le sujet climatique de l'agenda politique. Est-ce que ça affecte votre façon de travailler, votre morale, votre état d'esprit ?
Alors je vais répondre tout d'abord sur la partie scientifique, hein, c'est-à-dire la question de l'engagement des pays sur les observations, sur la modélisation, sur les moyens scientifiques, hein. Donc c'est vrai que la communauté scientifique est vraiment en alerte sur ce point-là, parce que si des pays se désengagent comme les États-Unis, qui sont des très grands contributeurs, eh bien les observations sont menacées ou menacées de disparaître ou de ne plus être gérées, de ne plus être hébergées. Voilà. Maintenant, il y a des moyens de s'en tirer, mais ce sont des coûts supplémentaires aussi pour les autres pays. Ce qu'il faut bien voir, c'est aussi que les États-Unis ont toujours été des très grands contributeurs. Et que d'une certaine façon, les observations mondiales dépendent très fortement, on va dire, des États-Unis, et peut-être qu'il y a là un déséquilibre aussi à combler, qu'il y a une nécessité de participation plus distribuée, hein. C'est toujours pareil, hein. Plus on distribue, plus le système est résilient aux à-coups politiques. Voilà. Après, sur les déclarations des politiques, en général, je ne commente pas, hein, dans mon rôle, on se doit une certaine neutralité diplomatique. Les États-Unis n'est pas le seul pays qui fait ce type de déclaration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GIEC, il y a 195 pays, hein, je rappelle, qui ont la même voix, a priori, et donc le GIEC fonctionne. À l'heure actuelle, les pays nous demandent de rendre ces rapports pour le 7e cycle, et on a commencé le cycle, donc les choses, comment dire, avancent. On a des auteurs, par exemple, dans le groupe 1, d'une soixantaine de pays, dont les États-Unis, bien sûr. On a des auteurs américains qui n'ont pas été nommés par le gouvernement américain, mais qui ont été nommés par des organisations observatrices du GIEC, hein, ce qui est tout à fait possible. Et puis des auteurs de tous les pays. Hein, voilà. Donc le GIEC s'appuie beaucoup sur le fait qu'on, justement, on a 195 membres, hein, et il y a énormément de membres qui attendent énormément de choses de la part du GIEC, notamment les pays les moins avancés et d'autres pays aussi. Donc le fait qu'un pays ne s'approprie pas vraiment le sujet ou le conteste ne retarde pas le travail du GIEC.
Alors si je souhaitais vous inviter aujourd'hui, c'est d'abord parce que je trouve que vous êtes relativement discret dans les médias. On peut quand même, je le dis ici, vous retrouver dans le podcast d'une table ronde qui a été organisée au mois de septembre à la Fête de l'Humanité. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'on mobilise les experts du climat, surtout dans des moments que je vais qualifier de panique journalistique, lors de canicules, d'inondations. Est-ce que c'est aussi votre impression ? Et puis est-ce que cet exercice de vulgarisation là auquel vous vous prêtez, ça fait partie de nouvelles missions, ou en tout cas de missions renforcées aujourd'hui en 2025 pour les présidents, présidentes du GIEC ?
Alors non, je pense que ça a toujours été le cas. Ma collègue Valérie Masson-Delmotte, qui m'a précédé, a fait beaucoup de communication aussi, et elle avait le même devoir de neutralité diplomatique pendant son mandat. Donc si vous regardez un peu ces interviews, elles sont tout à fait dans le même état d'esprit, promouvoir la science, défendre la science, et rien que la science, quelque part. Donc on se doit de faire ça. Personnellement, j'ai beaucoup communiqué sur les événements extrêmes, c'est mon sujet de recherche, et notamment sur l'attribution des événements extrêmes, puisque c'était voilà mon sujet de recherche. J'ai pas mal d'articles publiés sur ce sujet-là, les vagues de chaleur, les inondations, etc., et leur lien au changement climatique. Donc c'est vrai que peut-être que j'essaye de... où je suis moins appelé aussi, hein, par vos collègues journalistes. Mais c'est aussi parce que je dirais que maintenant, il est plus difficile pour moi, dans mon rôle, de communiquer sur une étude, sur un événement. Notre rôle dans le GIEC, c'est vraiment de communiquer sur le corpus des connaissances. On ne représente pas ni ses propres recherches, ni une étude particulière, mais vraiment l'ensemble des connaissances telles qu'elles ont été analysées et synthétisées par les auteurs.
Sur la question du traitement journalistique de la question environnementale, on peut vous retrouver dans une interview donnée aux médias Vert durant l'été, où notamment on pouvait retrouver ce chiffre, moins 30% de temps consacré aux enjeux environnementaux dans les médias audiovisuels, donc sur une période d'un an entre 2023 et 2024. L'autre raison pour laquelle je souhaitais échanger avec vous, c'était pour essayer de prendre un peu de hauteur dans une actualité, un contexte légèrement anxiogène quand même sur la question climatique. En 2021, la France, elle arrivait en quatrième position d'un classement qui avait été contesté, mais classement donc des pays les plus écolos au monde. Et plus récemment, en 2025, un sondage Ipsos révélait que 38% des Français interrogés estiment qu'on demande trop de sacrifices à la France pour combattre les dérèglements climatiques. Un chiffre qui était en augmentation par rapport aux années précédentes. Il y a donc cette impression, pas pour une majorité de Français, mais pour une partie de la population, que nous sommes dans un pays qui en fait déjà beaucoup par rapport au reste du monde. Il y a sans doute beaucoup à dire sur ce sujet, mais comment vous percevez ce type de discours ?
Je crois qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y a des reculs environnementaux, des retards ou des reculs, pas seulement dans les politiques nationales, mais aussi dans d'autres pays. Je crois que on arrive à un stade aujourd'hui où il faut bien comprendre que par exemple, le coût des énergies renouvelables est devenu très faible. Et les coûts de fonctionnement et d'investissement des énergies renouvelables, hein, c'est dans les rapports du GIEC, est devenu avantageux dans de nombreux cas. Donc en fait, on est dans une véritable compétition entre les énergies, hein, et du coup, il faut s'attendre à ce que ça se traduise un petit peu au niveau politique aussi, par des phénomènes de lobbying, par des phénomènes qui sont assez connus, et que ça se traduise dans les décisions politiques, dans les médias, et puis aussi dans le grand public. On a ces débats, on est à la croisée des chemins en ce moment, hein. Cette transition, elle est en train de se produire, cette transition donc de l'énergie et la transition écologique, elle est en train de se produire, qu'on le veuille ou non. Elle va beaucoup trop lentement pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris pour le moment. Mais elle est néanmoins en train de se produire. Il y a beaucoup d'industriels qui ont investi dans cette transition, et les investissements industriels, c'est pas des investissements qu'on change tous les trois jours. Donc, il y a des directions qui ont été prises, qui vont continuer à être prises, et on va avoir effectivement l'influence politique qui peut retarder ou accélérer, hein, ça dépend. Mais je crois que la machine est lancée.
Mmh. Pour compléter donc sur les reculs là, auxquels vous faites allusion, on pense évidemment à des réductions du côté des aides pour rénover son logement, la fin annoncée en tout cas du dispositif ZFE, zone à faible émission, ou encore le récent vote sur la loi Duplomb. Alors ça, c'est pour les reculs. Peut-être pour ce qui fonctionne quand même en France, le pays est régulièrement reconnu pour son travail de diplomatie climatique. Et puis aussi pour, on a évoqué le sujet de l'énergie, pour avoir une électricité faiblement polluante sur le territoire. J'avais une question, toujours dans cet objectif de prendre de la hauteur. Dans ces classements que j'ai évoqués des pays les plus écolos, on est sans doute nombreux à avoir en tête des premières places qui sont occupées par des pays comme la Suède, l'Islande ou la Norvège. Je me demandais si aujourd'hui... Quels sont les critères pour juger d'une politique climatique ambitieuse à l'échelle d'un État ? Et puis surtout, si ça existe quelque part aujourd'hui, ou si c'est difficile d'être un pays avant-gardiste sur la question écologique dans cette économie qu'on sait mondialisée, capitaliste, etc.
J'ai envie de dire, sur le climat, c'est relativement simple, enfin en tout cas dans une des dimensions du changement climatique, qui est celle d'atténuation, il suffit de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, hein. Donc voir comment les politiques des décennies précédentes ont conduit à des baisses ou non plus ou moins importantes. Alors maintenant, la politique actuelle, elle va jouer sur les émissions futures, bien sûr. Mais si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, l'Europe a baissé fortement ses émissions de gaz à effet de serre et de CO2 depuis 1990, hein, c'est indéniable. Malgré tout, ça va pas assez vite, mais c'est quand même une baisse de plus de 30% qui est importante. En France, on est à peu près dans ces mêmes niveaux-là aussi. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment les politiques actuelles et celles qui sont un peu dans les tuyaux et qui n'arrivent pas à aboutir encore par essentiellement l'instabilité politique actuelle en France, hein, qui retarde en fait l'adoption de certains grands projets comme la stratégie bas carbone et dans sa dernière version, etc. Donc ça influe, ça retarde. Je pense pas qu'elle puisse inverser les courbes, c'est-à-dire conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, pour le moment, c'est peu crédible, mais le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat met bien en garde et montre bien une vigilance. Ce rapport du Haut Conseil pour le climat a pour mission d'évaluer les politiques publiques, hein, ce que n'a pas le GIEC. Et le Haut Conseil pour le climat dit bien que il y a un réel point de vigilance parce que, par exemple, dans la dernière année, la baisse des émissions n'a été due qu'à un facteur conjoncturel, c'est la remise en marche des centrales nucléaires qui étaient arrêtées suite aux maintenances et aux effets du Covid. Donc, en fait, il y a un point de vigilance parce que les facteurs qui conduisent aux baisses d'émissions, en fait, semblent un peu en panne aujourd'hui. Et donc, il y a un besoin de relance des politiques publiques pour continuer à produire ces baisses d'émissions telles qu'elles ont été par le passé, voire les accélérer.
Les émissions de gaz à effet de serre, elles repartent à la hausse à l'échelle mondiale. Si on joue au jeu du pays le plus vert, il peut être facile de pointer son doigt vers les plus gros émetteurs de CO2, donc le principal gaz à effet de serre. En l'occurrence, si on compte en valeur absolue, il s'agit de la Chine, des États-Unis et de l'Inde, qui à eux trois produisent 50% des émissions mondiales. Donc on peut entendre ce genre de phrase « j'ai pas envie de fournir plus d'efforts quand je vois ça ». On fait quoi de ce genre de réaction épidermique qu'il peut être compréhensible d'expérimenter? Est-ce que c'est peut-être là qu'il faut dézoomer et puis questionner le moteur du changement, peut-être?
Je pense qu'il est facile de critiquer des pays qui sont en développement, alors que la principale responsabilité historique, c'est-à-dire le cumul des émissions depuis le début, ce ne sont pas ces pays-là. La Chine rejoint le groupe, hein, mais la Chine est actuellement en train de baisser ses émissions. On arrive sur un plateau, les émissions n'augmentent plus vraiment en Chine. Elles ont plutôt tendance à baisser dans les derniers mois. Il faut regarder la responsabilité historique. Une fois qu'on s'est développé, voilà, on peut responsabiliser les régions du monde qui sont en développement, mais c'est un tout petit peu injuste quand même. Donc la vraie question, en fait, elle est de baisser les émissions à l'échelle mondiale. C'est un effort de tout le monde. Et pour les pays qui sont en développement, il y a vraiment évidemment une question de développement, précisément, dont les pays ont besoin, et de savoir comment ce développement peut se faire de la façon la moins carbonée possible, voire tendre vers zéro dans les décennies qui viennent. Donc ça, c'est un sujet de collaboration internationale. C'est comment on négocie pour que les objectifs à la fois de développement, d'équité dans le monde et de sobriété de la part des émetteurs historiques puissent s'accorder finalement sur des directions à prendre qui satisfassent à tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a cet accord de Paris, c'est pour ça qu'on a les COP. On en dit beaucoup de mal des COP, hein, mais elles ont le mérite d'exister et d'avoir permis des réductions d'émissions, certes faibles, mais on n'est déjà plus dans la trajectoire du pire, hein, qui était imaginée dans le milieu des années 2010. Et aujourd'hui, on sait que avec les politiques qui sont déjà mises en place, on arrive à des hauteurs de réchauffement d'environ 3 degrés, ce qui est déjà beaucoup mieux que 4 ou 5 degrés, mais ce qui est encore beaucoup trop, puisqu'on sait qu'il y aura des effets très très difficile à gérer, voire impossible à gérer au niveau de l'adaptation des pays, des régions du monde qui vont suffoquer sous des chaleurs humides terribles ou souffrir de du manque d'eau ou de nourriture.
J'en profite pour glisser là que la prochaine COP, puisque vous en parlez, la COP 30 aura lieu au Brésil très bientôt, du 10 au 21 novembre. Et puis pour compléter sur la responsabilité des pays développés que nous sommes, peut-être ajouter aussi sur le calcul des émissions CO2. Donc en 2025, les émissions de gaz à effet de serre en France, elles baisseraient d'environ 1%. Ça, on le lit sur le site de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des études économiques, ça revient à 5,5 tonnes d'équivalent CO2 par an et par habitant. Mais si on regarde l'empreinte carbone qui là tient compte de tout ce que nous importons de l'étranger, le chiffre monte à 9,5 tonnes par an et par habitant. Et donc là, c'est au-dessus de la moyenne mondiale. Donc nous faisons bien ici aussi en France partie du problème. Une question sur les freins à l'action climatique, c'est de se dire qu'il est trop tard. Et en effet, pour tenir cette limite de plus 1,5 degré fixée par l'accord de Paris en 2015, vous l'expliquez cet été sur France 24, c'est trop tard pour cet objectif. Pourtant, il faut quand même agir pour ne pas aller plus loin dans le dérèglement et puis travailler à l'adaptation dès maintenant. Dans cette même interview, vous donnez plusieurs exemples, le renoncement à l'avion, les mobilités douces ou encore une alimentation moins carnée comme piste d'action prioritaire. Je voulais vous questionner sur votre regard à propos de l'articulation entre ce genre de gestes individuels que vous citez et puis un changement de modèle global. Il faut peut-être dire que tous les Français n'ont pas le même degré de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre et que tous ces changements ont besoin d'être soutenus politiquement.
Bien sûr, le soutien politique est absolument crucial. Les efforts individuels, quelque part, vont entraîner du monde. Voilà, on vous citiez effectivement une alimentation moins carnée. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir végétarien. Hein. C'est moins carné parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de régime alimentaire extrêmement carné. En tout cas, on peut faire sans. Maintenant, ces effets d'entraînement, s'ils ne sont pas soutenus par les politiques, ils vont être limités. Là encore, je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter. Pourquoi ? Parce que, en fait, pratiquement tous les gestes pour le climat sont des gestes pour notre propre santé. Donc, quelque part, si on oubliait même le climat, on aurait intérêt à avoir une alimentation moins carnée et à avoir des mobilités actives parce que ça fait moins de maladies cardiovasculaires et un bien-être plus élevé. Donc, dans tous les cas, je pense que les politiques peuvent être un accélérateur formidable, mais c'est pas le seul. Il faut vraiment voir ce couplage entre climat et santé qui est très 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 important, puisque les effets sur la santé peut-être parlent beaucoup plus à beaucoup plus de monde que l'atténuation du changement climatique.
J'arrive à ma dernière question. La période que nous traversons, elle est marquée par quand même en partie une forme de déni face aux réalités qui sont déjà présentes du changement climatique. L'accélération du rythme des canicules et des catastrophes naturelles, sujets sur lesquels vous travaillez en tant que chercheur, l'effondrement de la biodiversité ou encore les déplacés climatiques à différents endroits du monde et y compris en France. C'est là, c'est su, mais il semble difficile, peut-être douloureux, de percuter collectivement avec aussi quand même comme nœud du problème des forces puissantes constituées par de grands acteurs économiques et financiers qui n'ont pas tout intérêt à changer de cap. Je crois que ce sujet du déni, du relativisme ou du fatalisme, ça peut prendre différentes formes, ce n'est pas vous les comportements que vous observez le plus et sur lesquels vous avez envie d'insister. Vous voyez une partie de la population qui a compris, qui est prête à changer.
Oui, bien sûr. La transition, il faut l'appuyer sur les volontés motrices, hein, pas les forces qui retardent ou qui font traîner les choses. Mais d'une manière générale, c'est vrai que lorsque je parle en public ou que je présente les résultats du GIEC, je rencontre assez peu de déni. Il y a probablement du déni très fort dans certains milieux, ou sur les réseaux sociaux, ou certains réseaux sociaux. Hein. Maintenant, je tiens pas particulièrement à passer du temps, voilà, à répondre à rentrer dans le jeu d'attaques sur la science, finalement, qui ne sont pas, en plus, je pense, sincères, au sens où ce déni, il est probablement intéressé. Donc, c'est pas dans l'arène scientifique, on est dans une autre arène politique, économique. J'essaye de rester sur les éléments scientifiques, hein, voilà, à mon niveau.
Robert Votard, donc je vous représente, vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et donc depuis l'été 2023, co-président du groupe de travail numéro 1 du GIEC, qui porte sur la connaissance des bases physiques du changement climatique. Merci beaucoup Robert Votard.
Merci.
Je ne sais pas d'où je viens, il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas d'où je viens, il y a du rouge dans ce jardin. Depuis longtemps, c'est le matin, il y a du rouge, il y a du rouge. Depuis longtemps, c'est le matin, il y a du rouge dans ce jardin. Je ne sais pas d'où je viens, il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas d'où je viens, il y a du rouge dans ce jardin. Depuis 100 ans, c'est le matin, il y a du rouge, il y a du rouge. Depuis 100 ans, c'est le matin, il y a du rouge dans ce jardin. Je ne sais pas d'où je viens, il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas d'où je viens, il y a du rouge dans ce jardin. Depuis longtemps, c'est le matin, il y a du rouge, il y a du rouge. Depuis longtemps, c'est le matin, il y a du rouge dans ce jardin. Je ne sais pas d'où je viens.
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 Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons mourir. Je ne sais pas ce que je cueille, il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas ce que je cueille, il y a du rouge sur mes mains.
Il y a du rouge, à l'instant, dans Vert des Terres. C'était Alice, si vous ne connaissez pas cette formation. Il est encore temps d'aller découvrir cette micro-chorale suisse qui a dévoilé son deuxième album au cours de l'été. Château Faible, c'est son titre, est sorti en auto-édition. On poursuit l'émission avec un reportage maintenant réalisé à la Noé Verte sur l'ancienne ZAD, zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Il y a 10 ans, un collectif ouvrait un lieu d'expérimentation sur la commune de Grandchamp-des-Fontaines en lien avec la mobilisation de l'époque contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En janvier 2018, abandon du projet. Alors à quoi ont ressemblé les jours d'après pour la dizaine d'habitants du site? Élément de réponse sur place avec Camille et Alec, deux de la dizaine d'habitants du lieu, alors que 10 jours de fête étaient organisés du 2 au 12 octobre. Comment on se lance?
Comment on se lance? Ouais, bah là on est sur donc, la Noé Verte, un lieu ouvert il y a 10 ans dans le cadre de la lutte anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est aujourd'hui habillé en habit de fête, on va dire, pour fêter les 10 ans. Petite guinguette, barnum, chapiteau, table de banquet, brasero pour se réchauffer le soir, un bar.
Il y a un élément très important qui est le soleil.
Ah, qui est le soleil, bien sûr.
Nous sommes le 10 octobre et c'est quand même rare d'avoir un si beau temps.
Moi, c'est Alec, du coup, je suis habitant de la Noé Verte et membre du collectif de la Noé Verte. Je suis arrivé à la Noé Verte depuis l'ouverture et je suis cartographe, ou en tout cas, j'interviens avec les éditions à la Criée, qui est une maison d'édition locale, un peu orientée sur les luttes locales. Et voilà, et sinon le métier ici c'est de faire plein de choses, bricolage, maraîchage, élevage.
Moi c'est Camille, je suis aussi habitant de la Noé Verte depuis maintenant 3 ans. J'ai pas de casquette professionnelle ou particulière, je fais aussi plein de choses différentes depuis que j'habite ici et c'est ça que j'aime bien.
On est dedans, dans le périmètre.
Ouais, on était une maison qui était censée être la ceinture de compensation écologique, donc j'ai l'impression que ça aurait pas été bétonné pour des pistes de l'aéroport ici, mais c'était considéré dans la zone en tout cas.
Ouais, c'est une des petites blagues historiques, enfin dans la construction de leur projet, en fait ils ont détruit pas mal de fermes et de maisons qui étaient sur le périmètre. Des trucs qui les empêchaient de faire un aéroport, de mettre des pistes et tout ça. Et en fait, cette maison-là, elle a été murée mais non détruite, justement pour des compensations écologiques. Ils avaient imaginé que ça devienne un refuge cavernicole, donc pour y loger des chauves-souris. Et ça fait partie de ce qu'on est venu faire il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Je pense qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui, on était encore en train de casser des parpaings pour rouvrir cette maison.
L'usage de cette maison, c'est la partie collective du collectif. Du coup, c'est là où on a la cuisine, un bureau, la salle de bain et des dortoirs toujours à disposition pour si des gens passent et veulent dormir. Et c'était aussi dans cette maison que se situait l'ancienne conserverie.
On était un petit groupe de milieux alternatifs associatifs, tiens, de Nantes. Et en fait, on avait un projet d'acheter quelque chose ensemble pour créer un collectif quelque part. Et en fait, c'est une camarade qui habitait sur la ZAD déjà depuis quelques années qui nous a dit « Mais pourquoi vous faites ça? Venez plutôt tester votre collectif, tester plein de choses. » C'est une réouverture qui est arrivée dans un moment où toutes les composantes différentes du mouvement anti-aéroport étaient un petit peu dans un creux de vague. Et l'ouverture de la Noé Verte est arrivée un peu comme un espèce de catalyseur et de regroupement de toutes ces composantes. Alors il y avait l'ACIPA.
ACIPA, c'est l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le mouvement des élus, les camarades paysans, les naturalistes. Et ça redonnait vraiment un petit coup d'énergie.
Peu de temps après l'occupation, Vinci, le propriétaire, demande l'expulsion et porte l'affaire devant la justice en octobre 2015. Les premiers pots de confiture à la châtaigne de la Noé Verte sont alors vendus devant le tribunal. Le juge repousse la possibilité d'une expulsion à 2017 et le dossier est finalement toujours ouvert quand arrive la bonne nouvelle.
Annonce de l'abandon le 17 janvier 2018, qui est devenu un jour férié ici. On fait la fête et on mange ensemble. Et les expulsions, je crois que c'est avril 2018. Et il se trouve que nous, à l'époque, on était entre guillemets protégés parce qu'on était encore sous protection juridique de notre procès qui n'était pas encore tout à fait fini. En tout cas, on n'a pas été délogés en 2018.
Et alors après avril 2018, il se passe quoi notamment entre tous ceux qui étaient mobilisés peut-être à ce moment-là et une fois que la présence policière se termine, que l'attention médiatique se détourne.
Voilà, ben là, c'est retour à une réalité un peu plus froide. Il y a eu des petites tensions internes donc dans le mouvement, des crises et des séparations. C'était le moment aussi de négociations avec les pouvoirs publics, État, département et élus locaux. Des positions intermédiaires à trouver entre le refus de négocier et le parler avec l'ennemi, quoi. S'en est suivi aussi tout un long travail de négociation, donc sur que, une fois que le projet d'aéroport se fait pas et qu'il y a des gens sur ce territoire qui ont construit des bâtiments et des activités, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a des trucs qui ont été résolus, mais pas tout. On est encore c'est pas encore terminé.
Là, on vient de quitter un premier espace et donc en passant une haie, on est dans un nouveau champ, un nouveau terrain.
Le premier champ d'habitation. On a le champ qui est presque public. Et à partir du moment où on traverse la première haie, on arrive dans un premier champ d'habitation où du coup on appelle ça comme ça parce qu'il y a un peu des habitations esséminées dans les champs où du coup c'est les personnes qui habitent le lieu ou qui y passent qui ont des habitats plutôt réversibles et totalement légers et mobiles quoi.
Il y a des yourtes, il y a une caravane, il y a une maison.
Et donc là on arrive en troisième champ. Qui est, moi, je trouve le plus joli de la Noé. J'habite dedans, c'est peut-être pour ça. Non, mais ce qui est chouette, c'est qu'on n'y voit pas que des habitats. C'est aussi un champ où on y fait du maraîchage.
Petit potager, je dirais.
Petit potager, avec une serre et un potager aussi extérieur. Et cette pépinière de petits arbres fruitiers. Au fond, on pourrait aller voir tout à l'heure, il y a une oserie. Il y a une personne sur zone qui fait de la vannerie.
On peut dire qu'on a presque nos premiers fruits cette année, enfin, ou cette année.
Les premières pommes cette année, ouais. Les premières pêches l'année dernière.
Le lieu en lui-même, la Noë Verte, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment autonome. Enfin, l'autonomie, elle se passe à une échelle un peu plus large, un peu plus grande. On participe à un mouvement plus global sur la ZAD qui s'appelle SEMTAZAD, où il y a d'autres types de productions, patates, céréales. Toutes les semaines, on participe à un potager collectif qui est vraiment aussi très très beau et très très bien géré. Voilà, en tout cas, sur des questions d'autonomie, on n'est pas encore au point au niveau énergétique, mais au niveau alimentaire, on peut dire qu'on est vraiment très très bien, je pense. Ouais. On va toujours au supermarché pour des bricoles ou des extras, je veux dire.
Des petits kiffs personnels.
Oui, voilà.
J'ai l'impression que les seuls trucs qu'on achète vraiment à l'extérieur, c'est chocolat, café, du beurre. Mais même le café, la grande nouveauté cette année sur la ZAD, c'est qu'on se met au café de Lupin.
Ça ressemble au café ?
En goût ? C'est
chicorée, je dirais.
Chicorée, plutôt chicorée, ouais. Mmh.
Dans le champ suivant que je visiterai un peu plus loin, il y a aussi un verger où environ 200 arbres ont été plantés il y a 10 ans. À certains endroits, les sols, qui étaient auparavant cultivés en conventionnel, ont encore besoin d'un peu de temps pour se régénérer.
Je suis arrivée sur la ZAD solo sans connaître personne. Et en effet, oui, c'était dans une recherche de changement, si on veut l'appeler comme ça. Moi, je viens de Grenoble, donc pas du tout du coin. Je suis née en ville. Enfin, je viens quand même d'un milieu très urbain. Moi, ce qui est un peu drôle, c'est que j'ai des personnes de ma famille qui étaient très, très investies dans la lutte depuis 2012. Et j'ai toujours été très, très détachée. Enfin, je ne me suis pas du tout intéressée à ce qui se passait ici à ce moment-là. Ouais. Et puis, en fait, c'est la vie qui m'y amène plus tard, quoi. Ouais. Mais oui, c'est sûr que moi, je suis arrivée ici avec une recherche de... Bah, classique, hein, de quitter la ville, de plus passer mes journées assises sur un bureau derrière un ordinateur, d'avoir envie de plus de politique au quotidien, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que moi, je suis passée par une phase de vraiment changement radical avec beaucoup de rejet de tout ce qui était ma vie d'avant, quoi, on va dire. Maintenant, je refais des ponts avec... ce que je savais faire, ce que je faisais, et c'est cool. Enfin, je sens qu'il y a aussi le changement. Il continue de se faire. Enfin, moi, en tout cas, individuellement, dans mon parcours ici, et ce territoire, il permet aussi ça. Enfin, un truc qu'on a très peu dit, c'est qu'on a quand même une vie culturelle qui est incroyable ici et qui est vraiment une grande chance.
Et donc là, on arrive sur le chemin communal.
Du coup, en face de ce chemin, les champs de maraîchage. Du GAEC aux petits oignons dont on parlait tout à l'heure.
Ok.
Mais il y a un projet de logement social paysan qui est en train de naître ici.
Ce qui fait que ce sera prochainement des gens avec qui on vivra, quoi. Et du coup, ça c'est chouette, c'est une expérimentation là qui est en cours et ça faisait partie des négociations avec le département depuis 2018. Il y avait la partie bail amphithéotique que la Noë Verte a signée en janvier dernier. Mais ça, qui est plutôt un bail qui concerne les bâtis d'habitation pour les personnes qui ne sont pas agriculteurs et agricultrices. Et en parallèle, il y avait un pan de négociation sur les baux ruraux et sur le logement paysan. Normalement, ça aboutit cette année, donc c'est vraiment en bonne voie avec le département. Et c'est un projet qui est co-construit entre le département Habitat 44, qui est un bailleur social, et du coup les paysans de la zone. C'est quelque chose qui permet aux paysans de bénéficier d'un logement sur leur exploitation, un logement social, ce qui fait que l'exploitation est plus accessible parce qu'il y a un logement sur place qui n'est pas propriété des agriculteurs, ce qui permet surtout de transmettre la ferme à la fin parce que voilà, les suivants n'ont pas acheté le logement en plus de la ferme.
Il y a un truc très pragmatique terre à terre à raconter, c'est que quand même on est arrivé ici en squat avec la vie qui va avec et on se retrouve depuis cette année à payer un loyer. On a payé le notaire, on paye un loyer maintenant, même s'il est annuel et même si on pourrait le considérer comme pas cher par rapport à d'autres endroits, en fait ça faisait pas du tout partie de notre économie et de notre manière de nous organiser. Du coup tu peux pas travailler en troc et avec le département. Donc quelque part, tu es obligé d'aller trouver de l'argent quelque part. Et donc ça, c'est nouveau. Toujours dans cette perspective économique aussi, ce que ça change, c'est aussi la projection. En fait, c'est un peu utilitariste ce que je veux dire, mais je veux dire, Maintenant, tu perds de l'argent à t'en aller. Donc, tu as quelque part un espèce d'intérêt financier à rester, quoi.
Là, c'est question d'argent. Moi, j'ai la sensation que c'est un truc auquel on va devoir faire face de manière intracommunautaire pour réussir à ce que ça se passe bien. Parce qu'en effet, l'arrivée de SEBO, ça crée encore plus de différences entre les gens en termes de, des gens qui sont régularisés, des gens qui ne sont pas régularisés, mais oui, mais des gens qui payent un loyer, des gens qui n'en payent pas. Enfin voilà, ça crée des formes de nouvelles classes sur zone. Et comme les rapports de classe sont des rapports qui sont jusqu'ici très peu discutés, voilà, je pense que c'est un dossier qu'on essaye d'ouvrir et qui va devoir être ouvert dans les prochaines années. Et moi, je trouve que l'autre changement, en tout cas qui me touche individuellement, et je trouve qu'il nous touche à l'échelle de la communauté aussi, c'est les questions de conflits, de justice. Enfin, moi, je me suis toujours organisée individuellement avant, et du coup, c'est un gros apprentissage que j'ai vécu ici de voilà, s'organiser à l'échelle de la commu, quoi. Et voilà, c'est des changements qu'on continue d'expérimenter et qu'on doit continuer fort de créer du changement à ce niveau-là, quoi.
Il faut expliquer que sur l'ancienne ZAD, le loyer varie beaucoup d'un lieu à l'autre sur le critère de la présence de bâti ou non. Et la signature de baux avec les autorités implique, en plus de ça, des disparités sur les travaux d'entretien à prévoir.
On est revenu au point de départ.
On est revenu au point de départ, là où on s'est rencontrés, dans la conserverie. C'est le projet avec lequel on est venu ici en s'installant sur ce lieu-là, sur la ZAD. Et on l'a, entre guillemets, inauguré cette année pendant l'anniversaire.
Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil au labu ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Une tentative de porte. Hop là. Au lieu de faire des pots de confiture chez toi dans ta cuisine, bah, ici, on a un espace qui est à la fois prévu pour et avec du matériel professionnel ou semi-professionnel qui permet de, voilà, de faire ça de manière plus simple et voire à plus grande échelle, voilà, si tu as envie de faire ça avec tes voisins. Il y a déjà des productions ici, donc il y a la Lutte des Glaces qui fabrique des glaces. Il y a un groupe de Semtazad qui fait des transformations de soja, qui fait du tofu.
Les pot-au-fou.
On a une camarade aussi qui fait du chocolat. Des gens qui continuent à faire des lactofermentations, des confitures, des bocaux. Et moi qui fais de la bière ici, un petit hobby, bière de loisir.
Un truc que je sens que je négocie avec moi-même en permanence en vivant ici, c'est que vivre ici, on vit bien, c'est super, c'est un peu le luxe communal, comme pour employer certains chez nous. Et il y a un peu un truc d'avoir l'impression de faire sa part de lutte en vivant ici, rien que du fait de vivre ici. Et moi, je crois que des fois, je suis toujours dans la crainte de fermer les yeux sur... les malheurs du monde. Non, je sais pas, mais tu vois, ce truc de se renommer régulièrement, qu'on est bien, qu'on a de la chance, qu'il faut continuer à accueillir, qu'il faut faire profiter de tout ce qu'on a ici aux autres, qu'il faut que ça soit un territoire qui reste ouvert, que les moyens qu'on a acquis continuent d'être pas à nous, mais à tout le monde, et que comme la lutte, c'est plus ici le cœur, et bah continuer à l'échelle individuelle de donner de l'énergie, du temps et des efforts ailleurs.
Pour habiller ce reportage, vous avez entendu des extraits du morceau Andro de Casa qui était programmé lors de l'anniversaire de la Noé Verte. Pour aller plus loin, il y a un article de reporter, si vous le souhaitez, sur l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On fête 10 ans d'occupation, c'est le titre d'un reportage qui vous emmène à la rencontre des autres habitants de ce lieu.
Clouds into dividends. After a while, you were not a child anymore.
Benz, où la terre plie, c'était Dafo à l'instant avec un titre repéré par Yann, le programmateur musical de Canal B. Et Dafo, eh bien, c'est une jeune artiste de 21 ans qui est basée à Los Angeles et qui a sorti son premier album le 26 septembre chez Concord Records. Si des Parisiens venaient à passer par là et nous écoutaient, eh bien, Dafo jouera sur la scène de l'Olympia le 7 novembre prochain. Le reportage que vous avez entendu juste avant cette pause musicale sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes me permet d'introduire l'avenir à noter dans son agenda, à chaque fois des recommandations d'événements à vivre plutôt dans la région rennaise ou bretonne. Et donc, en ressources marquantes, Camille, qu'on a entendu dans le reportage, elle s'est arrêtée sur les ouvrages de Myriam Bahafou, chercheuse en philosophie le jour, militante écoféministe la nuit. Myriam Bahafou a publié deux ouvrages sous un angle écoféministe, Des paillettes sur le compost, ça c'était en 2022, et puis Héros politiques en 2025. Je me note donc le conseil de lecture, et là où ça tombe bien, eh bien c'est que Myriam Bahafou, elle est invitée par la librairie Planète.io jeudi 23 octobre, et ça se passe au Jeu de Paume en plein centre-ville de Rennes à partir de 18h. On va tranquillement terminer cette émission avec la reco, des conseils de ressources à aller lire, voir, écouter. Vous ne m'entendrez pas faire la promo du docu « Avenir du roi Charles III ». Sur ça, je cite « Philosophie de l'harmonie avec la nature ». Non. Par contre, quand Splend et d'autres médias indépendants s'allient en vue des municipales, ça oui, d'accord. Fin septembre, un partenariat éditorial a en effet été annoncé. Objectif, documenter et résister à la poussée de l'extrême droite à chaque scrutin électoral. Le prochain étant, vous le savez sans doute, les élections municipales qui sont prévues en mars 2026. C'est le site d'information Street Press qui est aux commandes et qui a donc imaginé une plateforme interactive afin de détailler ville par ville les risques de voir l'extrême droite l'emporter. Et dans les prochaines semaines, ce sont même des cycles de formation gratuits qui vont être proposés aux citoyens engagés, journalistes et créateurs de contenu qu'ils souhaitent. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un coup d'œil chez le partenaire breton Splend en allant sur leur site splend.org. Et toujours en vue des municipales, il y a d'autres acteurs que les médias qui sont déjà en train de s'activer, à l'image d'AgroBio 35, le groupement des agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine propose ainsi plusieurs outils en ligne aux citoyens pour interpeller les candidats sur leur programme en faveur de l'agriculture biologique. Quelques exemples parmi les propositions défendues, atteindre 100% du foncier agricole de la collectivité en bio ou encore tendre vers le 100% bio cette fois dans les cantines. C'était la première de Vers des Terres, j'espère que ça vous a plu. Vos retours sont les bienvenus, pourquoi pas par email à l'adresse lucie.loapre@gmail.com. Vers des Terres, c'est donc une émission à écouter une fois par mois sur Canal B et en podcast sur Spotify et Deezer. Et la prochaine diffusion est d'ores et déjà prévue vendredi 14 novembre à 13h du côté de Canal B. D'ici là, prenez soin de vous en vert et contre tout. Salut !